Pour le président d'Agro-Québec, il apparaît essentiel que l'on change rapidement des façons de faire dans notre agroalimentaire. Le contexte actuel de la pandémie du COVID-19 nous montre de façon très nette que plusieurs de nos activités de production et de transformation ne peuvent plus s'appuyer sur des éléments, sur des outils, pourrions-nous dire, que nous ne contrôlons pas. L'utilisation trop répandue de la main-d'œuvre étrangère, temporaire, est l'un de ces facteurs. Aussi, nous nous soucions trop peu encore de la provenance de nos aliments et, en tant que société, nous n'investissons pas assez rapidement et massivement dans la recherche et dans nos infrastructures de production et de transformation. Je me suis entretenu avec le président d'Agro-Québec, qui est impliqué dans l'agroalimentaire québécois depuis une trentaine d'années.
Monsieur André Michaud, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Michaud, la crise actuelle, la pandémie là, qui affecte l'ensemble du Québec, du Canada, de la planète même, ça fait prendre conscience de bien des choses. Et vous, vous avez étoffé votre réflexion sur bien des questions. Et un des points sur lequel vous vous êtes arrêté en particulier, c'est la question de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut remettre en question ce système-là d'appuyer nombre de productions horticoles au Québec, maraîchères? Québec également, sur de la main-d'œuvre étrangère temporaire qui peut venir, ne pas venir, la main-d'œuvre de laquelle on serait dépendante de façon constante.
Écoutez, on entend beaucoup parler ces temps-ci de souveraineté alimentaire pour les raisons qu'on connaît. Mais le principe même de la souveraineté, c'est de ne dépendre de personne. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, on ne peut pas dépendre des autres pays pour être approvisionné, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes, pas dépendre du Mexique, pas dépendre des États-Unis ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où on dépend d'une main-d'œuvre étrangère pour produire ces produits, ben, on fait face exactement au même problème que si on importait les produits. Alors là, je pense qu'on le réalise pleinement avec la crise que l'on vit actuellement, où il est extrêmement difficile d'avoir des travailleurs étrangers du Mexique et du Guatemala, et ce qui met en péril actuellement, justement, notre production maraîchère, principalement pour la saison 2020 qui s'en vient. Actuellement, on parle, au niveau du Québec, peut-être 4 000 travailleurs étrangers qui vont venir sur 16 000, alors ça veut dire une baisse de 75%. Alors, il est facile de penser qu'au Québec, cette année, en 2020, au niveau de la production maraîchère notamment, il y a d'autres productions, là, mais la production maraîchère, il n'est pas impossible de penser qu'on peut avoir, une diminution de la production entre 40 et 50 %.
Mais remplacer ces travailleurs étrangers par de la main-d'œuvre québécoise, l'histoire nous montre que c'est très difficile. Il y a très peu de Québécois qui, aujourd'hui, ces années-ci, acceptent d'aller travailler en agriculture, sur des fermes.
Puis écoutez, c'est pas le Québec qui a inventé ça. Hein. On n'est pas le seul État à utiliser ce principe-là pour développer notre agriculture. C'est un phénomène qui est mondial. On fait ça en Allemagne, on fait ça en France, on fait ça en Italie, on fait ça partout à travers le monde. Sauf que là, effectivement, tous les pays vivent exactement ce problème-là. Écoutez, je pense pas que ce soit possible d'éliminer, si vous voulez, ce principe-là d'utiliser la main-d'œuvre étrangère pour produire nos légumes et pour transformer nos aliments. Je pense pas que c'est possible de l'éliminer complètement. Mais de s'y baser à 100%, à mon avis, il y a là un problème. Et vous savez, on ne réglera pas ce problème-là par un coup de baguette magique ou avec une seule solution. Je pense que c'est un ensemble de solutions qui va faire qu'on va pouvoir, si vous voulez, améliorer cette situation-là, notamment à travers des programmes de robotisation, des programmes d'innovation. On le sait que c'est très, très difficile de faire travailler les Québécois et les Québécoises sur les fermes. Puis effectivement, c'est pas un travail qui est nécessairement facile, et c'est pas un travail aussi qui est énormément payé. On se le cachera pas. Et est-ce qu'il y a des formules qu'on pourrait regarder? Est-ce qu'on pourrait se pencher sur des solutions pour essayer de stimuler, si vous voulez, les Québécois et les Québécoises à aller travailler sur les fermes par un principe soit de partenariat, une façon d'intéresser les Québécois et Québécoises à aller travailler, évidemment, sur les fermes. La formation professionnelle également, la valorisation du métier d'agriculteur. Vous savez, c'est pas juste le problème d'aller chercher les travailleurs et les travailleuses québécois. Écoutez, on a un problème de relève dans le secteur agricole actuellement au Québec. C'est un problème qui est extrêmement sérieux. Alors, quand tu dis que tu n'es pas capable d'intéresser le fils ou la fille d'un entrepreneur agricole à reprendre l'entreprise, comment veux-tu intéresser le voisin à venir travailler sur ta ferme? Alors, écoutez, c'est pas simple, mais il va falloir véritablement essayer de trouver des solutions.
Là, on parle de faire vivre les entreprises déjà existantes avec des volumes habituels de production. Mais si on pense expansion de notre secteur agroalimentaire, si on réfère à la politique bioalimentaire du Québec, aux objectifs de croissance et des marchés locaux et de l'exportation, bien, il faut absolument que ce modèle-là change.
Ah, ça, c'est très, très, très clair. Écoutez, la situation dans laquelle on est actuellement, c'est absolument invivable. Si vous saviez le stress actuellement des producteurs agricoles, parce qu'on entend beaucoup parler, puis les Québécois pensent en général que c'est pour la cueillette des fruits puis des légumes, la cueillette des fraises, puis bon, ben finalement, ça va être en juillet, en août, en septembre. Pas du tout, parce qu'avant de cueillir les légumes, les fruits et légumes au Québec, il faut les planter. Alors là, vous comprenez que ils sont semés, là. Tout ce qu'on parle là, de laitue, ce qu'on appelle les primeurs, les laitues, les épinards, les radis, ou encore ceux qui viennent un peu plus tard, les choux-fleurs, les brocolis, tout ça. Bien, vous comprenez que ces produits-là, là, au moment où on se parle, là, le 9 avril, là, ces produits-là, ils sont dans les serres, prêts à être semés. Alors là, on va les semer dans quoi? Dans 2 semaines, dans 3 semaines? Là, on sait que les premiers travailleurs agricoles vont peut-être arriver la semaine prochaine. Là, s'il arrive la semaine prochaine, on parle d'un 15 jours de confinement. C'est bien correct, là, on n'est pas en train de remettre ça en question, mais là, ça nous amène à 3 semaines. Alors, on a déjà du retard par rapport à la plantation. Ça, c'est si on a une quantité acceptable de travailleurs étrangers. Alors, écoutez, on va savoir très, très vite à quoi va ressembler la saison 2020. Je vous dirais d'ici fin avril maximum, on va être en mesure de vous donner un chiffre exact, mais ce ne sera pas 100% de la récolte, ça, c'est sûr.
Donc, si on veut, comme ça a été dit au gouvernement, même des propos de M. Fitzgibbon qui allait dans ce sens-là, ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, si on veut faire véritablement du secteur de l'agroalimentaire un secteur contributeur majeur à l'économie du Québec, il faut qu'il y ait de la croissance encore. Et là, on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire notre croissance si on s'en tient aux façons de faire actuelles.
Effectivement. Effectivement, c'est pour ça qu'écoutez, il va falloir profiter de cette période-là, de cette crise-là, pour pousser une réflexion extrêmement profonde par rapport à cette situation-là et essayer de trouver des façons, comme je vous disais tout à l'heure, de non pas éliminer le principe de la main-d'œuvre étrangère, mais de pas en dépendre à 100%. On n'a pas le choix. On est rendu là. En tant que société, on est rendu là si on ne veut pas dépendre des autres pour produire, cultiver et transformer nos aliments au Québec.
Je pense que votre réflexion va sur un autre plan également. C'est que si on veut continuer à progresser dans ce secteur de l'horticulture, de l'agriculture, de la production maraîchère, etc., et de l'agroalimentaire de façon générale, il faut éviter de viser strictement le générique, les productions standards. Il faut y aller dans la haute qualité de nos productions.
Définitivement qu'il faut absolument se démarquer, d'être innovant et essayer de faire mieux. Vous savez, je vous donne à titre d'exemple la production en serre. On voit là que le gouvernement du Québec, au cours des derniers mois, au cours de la dernière année, a parlé souvent justement de cette solution-là, de la production en serre, de la développer au Québec. On en parle durant la crise encore plus parce qu'on sait que c'est une des solutions pour amener, si vous voulez, une autonomie agroalimentaire et agricole au niveau du Québec. Et je peux vous dire une chose, on va en parler beaucoup après la crise. Maintenant, comment nous développons ce secteur-là? Ben, écoutez, vous savez, ce qu'on parle souvent ici au Québec, on parle du retard en termes de superficie que nous avons au Québec par rapport à l'Ontario. On sait que l'Ontario a à peu près 1500 à 2000 hectares actuellement de serres en production maraîchère, alors que nous, on en a 100, ou à peu près peut-être 125 au maximum. Alors, je ne pense pas que l'objectif, c'est d'essayer de rattraper l'Ontario en termes de superficie. À mon avis, c'est un faux débat, puis c'est un mauvais objectif à se donner. Je pense que, en ce qui concerne la culture en serre au Québec, si on décide d'aller de l'avant, si la culture en serre devient un choix de société, ben, ce qu'il faut essayer de faire au Québec, c'est d'être les meilleurs. C'est-à-dire d'innover, d'avoir des serres de qualité, de se donner des centres de recherche, de faire les produits que les autres n'ont pas, de développer la culture biologique en serre. C'est comme ça que le Québec va réussir à se démarquer et finalement à se positionner par rapport à ce type de production.
Et le développement, on peut le faire toujours en visant la plus haute qualité et l'excellence, là.
Bien sûr.
Les meilleurs au monde, comme vous disiez, M. Michaud, ça, on peut le faire sur la base, par exemple, de l'énergie, sur la base le bio. On a développé une expertise bio au Québec. Donc, on est capable de développer des choses qui nous appartiennent davantage qu'à d'autres régions.
Oui, bien, être les meilleurs, ça veut dire être performant, d'être extrêmement performant. Il faut être performant au niveau environnemental, il faut être performant au niveau énergétique, il faut être performant également au niveau financier, il faut que ce soit rentable et tout. Alors, je pense qu'on a plusieurs avantages concurrentiels. Écoutez, l'hydroélectricité, là, c'est pas une blague, là. Vous savez qu'actuellement, on est avantagé parce qu'on éclaire ce qu'on appelle le principe de la photosynthèse. On éclaire actuellement dans les serres à partir d'une énergie électrique qui, effectivement, est à un prix qui est intéressant. Pourrait-il être mieux? Oui, mais il faut pousser encore ça plus loin. Est-ce qu'on peut aussi chauffer nos serres avec l'énergie électrique? Écoutez, à 100%, peut-être pas, mais je pense véritablement qu'il va falloir développer ça, envisager cette possibilité-là qui va rendre nos produits encore plus performants au niveau environnemental. Vous savez, il y a 15-20 ans, on faisait pousser des fruits et des légumes dans des serres qui étaient chauffées à l'huile. Là. On peut pas dire que c'était très efficace au plan environnemental. Mais aujourd'hui, avec l'hydroélectricité que nous avons ici au Québec, il y a possibilité de faire un produit extrêmement vert, extrêmement de qualité et compétitif également.
Et donc, en terminant, M. Michaud, il faudrait aussi en parallèle que les consommateurs québécois soient conscients de la qualité de ce qu'on produit et de ce qu'on peut produire encore davantage, et aussi être conscients qu'il est important de consacrer une part peut-être plus importante du budget d'achat des aliments vers des produits québécois.
Oui, effectivement, effectivement. Bien, écoutez, je pense que les initiatives de toutes sortes que l'on voit actuellement, le panier bleu, l'achat local, je pense que les Québécois et les Québécoises étaient déjà sensibilisés. Je pense que durant la crise, de toute évidence, il semble y avoir un mouvement de masse, une conscientisation de l'importance de consommer localement. Je pense qu'il va en rester quelque chose, là. Je pense que cette crise-là va avoir ouvert les yeux de plusieurs consommateurs ici au Québec sur l'importance. Il y a un effet de prise de conscience, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut que les produits du Québec demeurent compétitifs et demeurent compétitifs à plusieurs écarts. Les avantages concurrentiels, des produits 100% Québec, à partir d'une énergie verte, avec des travailleurs d'ici, des travailleurs québécois, mais des produits qui sont aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, compétitif au niveau du prix. Et je pense que c'est possible d'y arriver. Si tout le monde y croit, si tout le monde veut ça, dans le fond, c'est un choix de société. Hein? Si le gouvernement veut des serres, si les consommateurs veulent des serres, si tout le monde veut des serres, puis on décide qu'on en construit, bien, construisons-en, faisons les meilleurs, donnons-leur les outils, créons des centres de recherche, et finalement, d'ici 5 à 10 ans, ben, on aura des produits ici au Québec. Premièrement, une diversité de produits. Vous savez, on fait actuellement des tomates, on fait des concombres, des fraises, des fines herbes, des laitues. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses encore qu'on peut développer.
Bien, écoutez, M. Michaud, merci beaucoup. Et puis, votre réflexion va nous aider à voir un peu plus clair dans ce qu'on pourrait faire de notre avenir dans l'agroalimentaire au Québec.
Merci beaucoup, M. Levac.
Ici Lionel Levac. Cela a été dit au moment de l'élaboration et ensuite de la présentation de la politique bioalimentaire du Québec. On a assez discuté, c'est le temps de l'action. André Michaud estime que la pandémie actuelle et les réalités auxquelles elle nous ramène doivent nous pousser à accélérer la cadence. Il y a 40 ans au moins que l'on parle d'augmenter le niveau d'autosuffisance alimentaire du Québec. On a plutôt perdu du terrain. Plus de serres pour produire à l'année, plus de travailleurs locaux bien soutenus, impliqués et convaincus, plus de technologies, plus de petites fermes, oui, mais peu importe la taille des entreprises, il faut globalement plus de production et davantage de diversité. Nous avons les outils pour le faire, affirme André Michaud, qui ajoute qu'il ne reste qu'à agir et vite. Au revoir.